Voilà, donc nous allons commencer aujourd'hui à étudier ce que sont ces actes du magistère dont nous avons annoncé le sujet. Et pourquoi étudier les actes du magistère? Alors je vous citerai tout d'abord, eh bien, cette parole que Monseigneur Lefebvre prononçait au début de ses cours d'actes du magistère à Écône. Et vous savez que tous ces cours ont été condensés, retranscrits dans ce livre, C'est moi l'accusé qui devrais vous juger, donc un livre qui est paru il y a quelques années maintenant, et qui traite donc des actes du magistère, des différentes encycliques que les papes ont écrites sur des erreurs modernes. Et voilà ce que disait Monseigneur, pourquoi étudier les actes du magistère de l'Église? Tout simplement pour connaître la situation de l'Église d'aujourd'hui. On s'aperçoit en effet que depuis bientôt 3 siècles, les papes ont toujours condamné les mêmes erreurs, celles qu'ils ont eux-mêmes appelées les erreurs modernes. Alors autrement dit, eh bien dans ces actes pontificaux, nous avons généralement la réponse à toutes les questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Alors bien sûr, au cours de cette année, nous verrons plusieurs encycliques. Vous avez, eh bien, la liste dans le papier que vous pourrez trouver à la sortie, c'est bien évident. Mais nous n'avons pas simplement retenu des encycliques sur les erreurs modernes. Nous avons par exemple retenu une encyclique, enfin plutôt une constitution apostolique de Pie XII qui traite de la Sainte Vierge, de l'Assomption de la Sainte Vierge. Alors, la conférence d'aujourd'hui a pour but, eh bien, d'expliquer ce que nous appelons les actes du magistère et de voir quelles sont les autorités, quelle est l'autorité plus exactement que nous pouvons leur donner. Alors, cette conférence se divisera en 3 parties. La première partie, nous allons voir tout d'abord, eh bien, que selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'Église a reçu ce pouvoir d'enseigner, tout simplement. Bon. Notre Seigneur a donné à ses apôtres et à leurs successeurs un pouvoir magistériel, c'est-à-dire un pouvoir d'enseignement. Ensuite, nous verrons quels sont les moyens que l'Église, que le pape a pour enseigner. Et c'est là que nous aurons toute cette liste de différents documents pontificaux, qui va de la bulle dogmatique à la lettre de la secrétaire d'État sur tel ou tel sujet. Et pour finir, eh bien, nous allons voir et nous verrons cette question justement de l'autorité de ces actes du magistère et plus spécialement de la question de l'infaillibilité pontificale. Question très importante, bien sûr, qu'il convient de bien cerner. Alors, tout d'abord, eh bien, je crois qu'il faut affirmer tout simplement que notre Seigneur a donné un pouvoir à ses apôtres. Et effectivement, après la résurrection, nous voyons notre Seigneur s'adresser à ses apôtres en ces termes. Phrase que vous connaissez bien, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et notre Seigneur continue, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Vous avez cette référence en Matthieu 28, 30. Leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Le rôle du magistère, tel que notre Seigneur le présente, à ce moment-là, c'est un enseignement, bien sûr, mais un enseignement de quoi? Quel est l'objet de cet enseignement? C'est de garder la parole de Dieu, garder l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il est bien évident qu'ici, et ailleurs, mais ici tout particulièrement, notre Seigneur donne cette mission d'enseignement, de prédication, de magistère à ses apôtres. Il a, bien sûr, un but précis. Et ce but, c'est la conservation de la foi. C'est de transmettre tout simplement le dépôt de la foi, c'est-à-dire l'enseignement de la tradition. Et je ne reviendrai pas sur l'explication de la tradition, tant Monseigneur Ticienne Malraux nous l'a expliqué la semaine dernière. Et d'ailleurs, saint Paul nous déclare dans une de ses épîtres « J'ai transmis ce que moi-même j'ai reçu ». Et c'est cette devise de saint Paul que Mgr Lefebvre s'est plu à rappeler d'ailleurs pendant sa vie, et tout spécialement le jour des sacres épiscopaux, lorsque, eh bien publiquement, il fait cet acte majeur, cet acte grave, et il explique pourquoi il le fait, pour transmettre le sacerdoce, pour transmettre ce dépôt qu'il a reçu, dépôt de la prédication, dépôt aussi des sacrements à transmettre. On voit d'ailleurs également dans l'Évangile, eh bien que pendant sa vie publique, notre Seigneur a envoyé ses apôtres prêcher. Et pour cela, bien sûr, il les a formés. On pourrait dire que notre Seigneur, eh bien, a formé le premier séminaire de toute l'Église en réunissant autour de lui ses apôtres qu'il a enseignés, qu'il a formés pour la prédication. Voilà ce que dit notre Seigneur à ses apôtres. « À vous a été donné de comprendre le royaume des cieux. Je ne vous parlerai plus en parabole, » dit notre Seigneur, je crois, dans le après la scène. « Vous êtes le sel de la terre. » Voyez, notre Seigneur traite ses apôtres de façon différente des fidèles qui l'entourent. Pourquoi ? Parce qu'il leur donne une mission particulière. Et saint Thomas d'Aquin nous dit cela, le Christ a été la lumière et le salut des païens par les disciples qu'il a envoyés pour leur prêcher. Vous voyez, le Christ a été lumière et salut des païens par les disciples qu'il a envoyés prêcher. Autrement dit, notre Seigneur n'a pas tout fait. Il a donné les prémices, et ensuite les apôtres, et toute l'histoire de la primitive Église le montre, les apôtres ont répandu cette parole divine qu'ils ont eux-mêmes reçue. Et à quoi ça sert d'avoir une doctrine, d'avoir une lumière, si on la met sous le boisseau, dit notre Seigneur. Enfin, il ne dit pas cela comme ça, bien sûr, mais c'est moi un petit peu qui paraphrase. En fait, notre Seigneur confie à ses apôtres, on peut dire, les trois pouvoirs que lui-même a en tant que Verbe incarné. Le Christ est prêtre, le Christ est roi, mais le Christ aussi est prophète. Il est prophète non pas tant parce qu'il annonce quelque chose de futur, mais parce qu'il enseigne. Et le rôle premier du prophète, c'est d'être docteur, c'est d'être un enseignant de la vérité, des choses qui ne sont peut-être pas connues, mais qui doivent être connues pour le salut, pour vivre selon la foi que Dieu nous a révélée. Mais si, eh bien, Dieu a donné, notre Seigneur a donné à ses apôtres un pouvoir magistériel, il faut bien remarquer que ce pouvoir magistériel que les apôtres ont et ont reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ce pouvoir ne s'arrête pas à la mort du dernier des apôtres. Saint Jean meurt, que se passe-t-il après ? Eh bien, le pouvoir magistériel de l'Église continue. En fait, les apôtres ont reçu un charisme particulier, un charisme de fondateur. Ils vont compléter, oui, ils vont compléter sous l'inspiration du Saint-Esprit la révélation. Et la révélation, comme nous l'a rappelé Mgr Ticienne Malraux la semaine dernière, est close à la mort de Saint Jean, à la mort du dernier des apôtres. Mais les apôtres, s'ils n'ont pas transmis ce charisme particulier de compléter la révélation, ils ont transmis à leurs successeurs ce pouvoir de l'enseignement, ce pouvoir du magistère. Les apôtres sont docteurs de la foi. Ils transmettent cette charge à leurs successeurs que sont les évêques. Et j'insiste bien, que sont les évêques et non pas les simples prêtres. Les évêques sont docteurs de la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont successeurs des apôtres. Et donc, les successeurs des apôtres, c'est d'abord, bien sûr, les papes. selon la succession apostolique, successeurs de saint Pierre, mais ce sont aussi, d'une autre manière, à condition qu'ils soient unis à la tête, c'est-à-dire unis au pape, les évêques qui sont les successeurs des apôtres. Et notre Seigneur a promis justement cette pérennité du magistère, d'une certaine façon, cette indéfectibilité de l'Église. Voici que je suis avec vous, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Notre Seigneur promet cette assistance à son Église avec vous, c'est-à-dire non pas simplement avec une seule personne, mais avec vous, c'est-à-dire avec l'Église, successeur des apôtres, jusqu'à la fin des siècles. Et saint Marc dira qu'il convient, eh bien, que les apôtres, les successeurs des apôtres, prêchent dans le monde entier et à toutes les créatures. Et cela prend du temps. Si, eh bien, le pouvoir magistériel s'était arrêté avec saint Jean, à la mort de saint Jean, le monde, bien sûr, avait été dans l'ensemble évangélisé, mais certainement, il y aurait eu beaucoup de pertes par la suite. Et évangéliser, prêcher dans le monde entier prend du temps. Et encore maintenant, on peut se dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc le pouvoir magistériel continue et l'Église indéfectible se doit de rester identique à elle-même, à ce que son fondateur a voulu jusqu'à la fin des siècles. C'est tout simple, finalement. Et on voit, effectivement, dans les Actes des Apôtres, par exemple, que c'est cette pratique qui a prévalu. Peut-être là, jusqu'à présent, je vous ai élaboré une théorie, mais on voit dans la pratique, selon l'histoire des Actes des Apôtres, qui est un livre historique, eh bien qu'au temps apostolique, il existe un magistère. Pierre, par exemple, saint Pierre, prêche le jour de la Pentecôte. C'est la première action qu'il fait. Après avoir été confirmé, il sort sans peur, sans reproche, pourrait-on dire, eh bien, il se met à parler et à convertir la foule qui se présente à lui, une grande partie en tout cas. Saint Paul soumet lui-même, lui est apôtre, mais il soumet sa prédication à l'autorité de l'Église. Et ce sera le premier concile de Jérusalem qui est réuni pour traiter des questions de rite, tout simplement. Saint Pierre, qui voulait continuer à utiliser les rites juifs, et saint Paul, qui est l'apôtre des gentils, non, on ne peut pas imposer ces rites aux païens, ils ne comprendraient rien, et cela doit être abandonné. Alors, saint Paul se rebelle, entre guillemets, contre saint Pierre, lui reproche son attitude, et l'autorité du concile de Jérusalem par saint Pierre tranche, d'ailleurs, en la faveur de saint Paul. On voit par exemple dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 41, ceux qui reçurent la parole de Pierre furent baptisés. Donc la parole, c'est l'enseignement, bien sûr. Un autre passage, ils étaient assidus aux prédications des apôtres. Donc on voit véritablement qu'il y a un enseignement qui est donné par les apôtres. Et lorsqu'il y a une question de doute, les apôtres tranchent. Par exemple, saint Paul dira à propos, je crois que c'est une question de mariage, aux autres je dis, moi, mais ce n'est pas le Seigneur qui le dit, si quelques frères, etc. Donc l'apôtre saint Paul tranche une question qui était disputée en tant qu'il a l'autorité pour le faire. Alors que ce n'est pas une question directement tranchée par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelquefois même, eh bien, on voit les apôtres excommunier les hérétiques. Et surtout, eh bien, nous voyons les apôtres se choisir des successeurs pour enseigner. Et regardez les deux épîtres de saint Paul à Tite et à Timothée. Ce sont les conseils du pasteur, ce sont les conseils de saint Paul à son disciple successeur, à ses disciples successeurs. Par exemple, à Timothée, dans sa première épître, chapitre 2, verset 7, « J'ai été établi pour cela, prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens point, docteur des nations dans la foi et la vérité. » Et dans la deuxième épître, à Timothée, chapitre 2, verset 2, il s'adresse directement à Timothée, « Et ce que tu as entendu de moi, devant plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables d'en instruire d'autres. » Donc, il transmet à Timothée, apôtre, évêque successeur de saint Paul, un magistère. Et ce sera le devoir de cet évêque, saint Timothée, de transmettre à son tour cette prédication de la foi, de l'évangile, et d'en instruire d'autres, c'est-à-dire de choisir par la suite des futurs évêques pour les sacrer, pour qu'ils soient ensuite, eh bien, témoins de cette succession apostolique. Quelquefois même, eh bien, on voit que Dieu, notre Seigneur, va, on peut dire, ouvrir le cœur des fidèles. Par exemple, le Seigneur dit, une épître, je n'ai plus pas les références ici, vous m'excuserez, mais le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie, non pour qu'elle croie, mais pour qu'elle soit attentive à l'enseignement des apôtres. Pour qu'elle soit attentive à l'enseignement des apôtres, voyez-vous. Bon, on pourrait, je dirais, retracer toute l'histoire, ouvrir les actes des apôtres, c'est tellement évident que je vais passer là-dessus. Donc nous avons établi, eh bien, que notre Seigneur a laissé un magistère à ses apôtres et aux successeurs des apôtres. Alors, maintenant, quels sont les moyens que le pape emploie pour enseigner, tout simplement? Bien sûr, vous avez les conciles. Les conciles qui sont des moyens que le pape peut décider seul. Il réunit plusieurs des évêques qui doivent être unis justement au pape, car les évêques séparés du pape ne peuvent rien dans leur pouvoir magistériel. Bon, mais je passe là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de nos propos de cette année. Et puis il y a tous ces actes du magistère dont on trouve la liste dans les Acta Apostolicae Sedis, c'est-à-dire les actes du siège apostolique, qui sont publiés chaque année en plusieurs numéros, donc ça doit être par mois. Et vous avez d'abord donc les bulles dogmatiques, ensuite les lettres encycliques, les constitutions apostoliques, les lettres apostoliques, les motu proprio, les lettres, les sermons, les messages radieux diffusés, les messages, les allocutions, les exhortations, les lois, les lettres de la secrétaire d'État. Et on voit dans cette énumération, je vais reprendre tout à l'heure quelques mots, une progression du plus solennel au moins solennel. Vous comprendrez qu'une exhortation n'a pas la même solennité qu'une bulle dogmatique ou qu'une lettre encyclique, une constitution apostolique, c'est bien évident. Et encore, cela va aussi pour une allocution, pour un message radiodiffusé, ça n'a pas la même autorité en soi qu'une bulle dogmatique. Alors expliquons quelques mots de cette liste. Voyons tout d'abord ce qu'est une bulle dogmatique, oui. Alors la bulle, dans la Rome antique, la bulle, c'était cette petite boule creuse de métal qui était portée par les adolescents jusqu'au jour de leur majorité. Et aussi, c'était bien sûr chez les patriciens, pas chez les esclaves, mais chez les patriciens, donc les nobles romains, les jeunes nobles romains, patriciens romains, portaient avant 17 ans cette petite bulle qui, eh bien, les faisait reconnaître. Et aussi, les triomphateurs, le jour du triomphe, portaient cette petite bulle, cette petite boule creuse de métal. Au Moyen-Âge, bien sûr, après l'Empire romain, la bulle exprime, selon son sens dérivé, le conseil, le dessein, la résolution. Et peu à peu, il va exprimer la marque ou le témoignage d'une volonté bien arrêtée, c'est-à-dire le sceau, le cachet. D'où le mot « bullare », l'infinitif du verbe « bullare », cacheté en bulle, apposé un sceau en forme sphérique. Donc en fait, la bulle, c'est quoi? C'est un cachet de cire qui sert à authentifier des lettres officielles publiées par le souverain pontife, dans une forme la plus solennelle, tout simplement. Ça peut être des décisions doctrinales, des sentences de canonisation, de discipline ecclésiastique, pour annoncer des jubilés, pour promulguer des indulgences, pour créer, diviser, éteindre une cathédrale, le siège d'une cathédrale, pour ériger des collégiales, pour investir canoniquement un évêque, etc. Bon, ça peut avoir... Enfin, une bulle peut traiter de différents sujets aussi variés les uns que les autres. Les encycliques, je suis obligé de passer assez rapidement, les encycliques, étymologiquement, ce sont des lettres circulaires qui sont adressées par les évêques à leur troupeau. Donc un évêque diocésain peut très bien envoyer, écrire une lettre encyclique à ses diocésains. Mais pourtant aujourd'hui, eh bien, on restreint plus ce mot d'encyclique aux lettres apostoliques du souverain pontife. Ces lettres apostoliques sont adressées généralement à tous les patriarches, primats, archevêques, évêques et autres ordinaires en paix et en communion avec le siège apostolique. Donc c'est une lettre adressée à l'Église universelle, mais premièrement, eh bien, aux évêques, patriarches, primats, etc. Quelquefois, il est vrai, nous voyons dans la liste des encycliques qui sont envoyées à une partie du troupeau, à un évêque, ou alors à un pays, par exemple. En général, les lettres encycliques ne promulguent pas de définition nouvelle. Il n'y a pas généralement de nouveauté annoncée. Ces lettres encycliques traitent de sujets qui intéressent l'Église entière. On y voit, par exemple, le pape y condamner des erreurs, signaler des dangers que courent la foi, les mœurs. On voit le pape exhorter des catholiques à la fidélité, à la constance dans la vérité, la saine doctrine, etc., dont le pape rappelle les différents points sur un sujet ou un autre, on verra tout à l'heure. Il indique quelquefois des remèdes aux maux qui existent déjà ou qui sont à redouter. Donc, voyez-vous, l'encyclique a véritablement un rôle doctrinal de rappel de la vérité pour enfoncer le clou et rappeler les devoirs de chacun. Les lettres apostoliques existent depuis longtemps. Cependant, la première lettre apostolique qui porte le nom d'encyclique date du 3 décembre 1740 et a été écrite par le pape Benoît XIV. C'est une lettre encyclique qui est adressée à tous les évêques sur les devoirs de leur charge. Et donc, comment un évêque doit-il remplir sa charge épiscopale ? Il est vrai qu'au début, eh bien, les encycliques sont rares. Et plus le temps avance, plus elles se multiplient, surtout au XIXe siècle. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au XIXe siècle, pullule une quantité d'erreurs modernes que les papes sont obligés de condamner, d'expliquer pour en analyser les erreurs, les racines fausses et promouvoir la vérité. Bon, par exemple, vous avez Mirari Vos Singularinos, écrite par Grégoire XVI en 1832 et 1834 au sujet des erreurs de l'âme, qui était condamné. Vous avez de ce même pontife, c'est-à-dire Grégoire XVI, l'encyclique Inter Precipuas du 6 mai 1844 sur les versions de l'écriture sainte, édité par des bibles protestantes. Que faut-il en penser ? Bon, eh bien, le pape nous le dit. Pie IX, en 1846, écrit l'encyclique Qui pluribus contre les erreurs d'Hermès, un naturaliste. Vous avez l'encyclique aussi de Pie IX de Conta Cura, qui est publié le 8 décembre 1864 pour la répression des principales erreurs modernes, qui donne la liste de toutes ces erreurs modernes. Enfin, qui explique dans ces erreurs modernes qui seront cataloguées ensuite dans le syllabus. Bon, etc. Vous avez Eterni Patris sur saint Thomas d'Aquin, sur la philosophie scolastique, donc c'est un sujet autre. Vous avez l'encyclique Arcanum Divinae Sapientiae de Léon XIII sur le mariage chrétien et la famille. Vous avez l'encyclique Immortale Dei de 1885 sur la constitution chrétienne des États. La célèbre encyclique Libertas du 20 juin 1888 sur la liberté, sur la vraie notion de liberté, qui eh bien, rejette la fausse notion de liberté, etc. Bon. Satis Cogitum sur l'unité de l'Église de Acerbonimis de Saint Pidis, dont nous traiterons la prochaine fois, etc. Bon, donc vous voyez, il y a différents sujets, différentes questions qui peuvent être traitées dans ces encycliques, mais plus le temps arrive, et on le verra ensuite pour conclure, plus les encycliques se multiplient, les actes pontificaux se développent. On appelle une encyclique des premiers mots latins qu'elle contient. Et c'est pour cela que, par exemple, l'encyclique Acerbonimis, eh bien, commence par ces mots Acerbonimis, tout simplement. Vous avez aussi un terme qu'on appelle le bref. Le bref, bon, comme son nom l'indique, indique un résumé. Dans les actes pontificaux, même si actuellement on ne l'emploie plus trop, on le définit comme des lettres pontificales expédiées avec moins de solennité que les bulles et le plus souvent pour des affaires de moindre importance. Donc on appelle ça un bref pontifical. Bon, vous avez aussi les constitutions apostoliques, vous avez aussi, comme je l'ai donné tout à l'heure, un motu proprio. Un motu proprio, c'est quoi? Eh bien, c'est un document du pape qu'il écrit selon son mouvement propre, une décision propre pour écrire, par exemple, le motu proprio de Saint Pidis sur la musique sacrée, le chant grégorien. Et ensuite, vous avez eh bien, les lettres que le pape peut écrire, oui, à tel ou tel prince, à tel ou tel évêque, les sermons. Vous avez par exemple la liste des sermons, oui, les sermons que le pape peut faire, les messages radiodiffusés, les messages, les allocutions, les exhortations, bon, les lois aussi, qu'il signe, qu'il approuve par lui-même, etc. Donc vous voyez que eh bien, les moyens de communication du Saint-Siège, du pape, sont assez larges et assez différents également. Voyons maintenant quelle est l'autorité de ces actes du magistère. En effet, comprenez, ce n'est pas parce que le pape ouvre la bouche que forcément on doit lui attribuer le maximum d'autorité à ce qu'il dit. Ce n'a jamais été la sagesse de l'Église de le reconnaître. Alors vient, en parallèle à ce que je viens de vous dire, cette question de l'infaillibilité pontificale. Cette infaillibilité pontificale a toujours été crue dans l'Église, mais c'est le Concile Vatican I, dans la constitution dogmatique Dei Filius sur la connaissance religieuse et la révélation, qui déclare cela. Et cette déclaration de cette constitution dogmatique sera complétée par une autre déclaration du même concile que nous verrons après. Voilà ce que dit donc cette constitution Dei Filius. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise. Attention. Et que l'Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire universel de l'Église. Bon, autrement dit, vous avez la Sainte Écriture. Bien. Vous avez également des décisions des papes, des conciles, etc. Que doit-on retenir ? Eh bien, ce que l'Église propose que nous croyons comme divinement révélé. Autrement dit, c'est l'Église qui nous propose, enfin, ce n'est pas une proposition, vous voulez ou vous ne voulez pas, ce n'est pas ce que je veux dire, hein, mais qui nous met devant les yeux ce que nous devons croire ou ne pas croire, comme appartenant au dépôt de la révélation. Et donc, avoir cette soumission de foi à cette vérité que l'Église nous propose. Et il faut avoir donc une adhésion de foi divine et catholique qui peut se faire de deux manières, je répète, soit par un jugement solennel de l'Église, et spécialement, en l'occurrence, du pape, qui exerce là son magistère extraordinaire, soit par le magistère ordinaire universel, qui est l'enseignement constant de l'Église. Nous reviendrons là-dessus. Voyons d'abord le magistère extraordinaire que l'Église définit comme un jugement solennel, un jugement. Le pape, là, il juge de la foi, il discerne ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Un petit peu, toute proportion gardée dans le domaine profane, un juge va dire est-il coupable, est-il non coupable. Il ne va pas faire un grand discours, non, il le dira d'une manière concise, la sentence, coupable ou non coupable, en, bien sûr, en expliquant ses raisons et ses motivations de la décision. Eh bien, le pape est un juge de la foi. Le pape, donc, est infaillible, et c'est la constitution Pastor Eternus qui nous le dit. Je vous lis cet extrait de la constitution Pastor Eternus qui définit l'infaillibilité pontificale, l'infaillibilité du pape dans son magistère extraordinaire. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsqu'il remplit sa charge de docteur et de pasteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église. Eh bien, le pape jouit par l'assistance divine à lui promise, en la personne de Saint-Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Dans ce texte, qui est très important, solennel, tout ce que vous... solennel et majeur, il est défini, donc, cette infaillibilité pontificale, c'est-à-dire que le pape ne peut se tromper lorsque il agit en tant que pasteur suprême, d'une manière solennelle, c'est-à-dire ex cathedra, c'est-à-dire du haut de sa chair, en tant que pasteur, docteur de tous les chrétiens. Et que va-t-il faire ? Eh bien, il va définir quoi ? Une doctrine sur la foi et les mœurs. Il va dire que cette doctrine doit être tenue obligatoirement par toute l'Église. À ce moment-là, il jouit de l'assistance de l'infaillibilité, de l'assistance du Saint-Esprit qui le garantit, eh bien, qu'il ne tombera pas dans l'erreur. Donc on voit que cette infaillibilité, elle est présente, bien sûr, mais à condition qu'il y ait des critères. Et ces critères, eh bien, on peut les résumer en quatre critères qui sont donnés, je répète ce que je viens de dire. Il faut que le pape parle ex cathedra, il faut qu'il parle sur la foi et les mœurs, il faut qu'il oblige les fidèles à croire et qu'il porte un jugement définitif, et ça c'est très important, et puis il faut qu'il s'adresse non pas à une partie du troupeau, à une partie de l'Église, mais à l'Église universelle, par toute l'Église. Et non pas par simplement l'Église de France, l'Église uniate, l'Église que sais-je. Non, par toute l'Église. Il y a donc ce jugement solennel définitif, et le pape agit comme juge de la foi. Il dit « est, est, non, non ». Il doit y avoir donc cette précision, cette concision dans la décision dogmatique. Le pape peut agir seul, là, dans son magistère extraordinaire, ou alors agir dans un concile, avec les évêques réunis, mais toujours sous l'autorité du pape. C'est le pape qui tranche. Donc le magistère extraordinaire, on peut dire, c'est assez facile à comprendre, car, eh bien, le concile, justement, a défini tous les critères. Et revenons un petit peu, justement, sur ces critères. Et tous particulièrement sur la troisième condition, sur le fait, eh bien, que cette doctrine doit être tenue par toute l'Église. Le pape doit prononcer donc un jugement explicite et final qui traite de la doctrine sur la foi ou les mœurs. Et il doit être manifeste par cela même que les fidèles, sans ambiguïté, puissent savoir, puissent être certains que cette doctrine appartient à la révélation, ou en tout cas avoir avec la révélation une connexion certaine. Donc on peut dire qu'il doit y avoir cette identité entre le magistère du pape et la foi de l'Église. La condition exigée par ce défini, en latin, peut faire défaut, effectivement. Elle peut faire défaut lorsqu'il n'y a pas de jugement doctrinal dans les expressions dont se sert le pape, qui volontairement n'utilise pas des expressions qui exigent une adhésion de foi ou une fermeté dans l'adhésion. Il peut y avoir des expressions même qui sont employées d'une manière inopportune. À ce moment-là, évidemment, s'il n'y a pas de certitude, eh bien, l'infaillibilité ne sera pas engagée parce que le pape n'a pas voulu concrètement l'engager. Et puis, il faut se dire aussi, eh bien, que la doctrine strictement garantie par l'infaillibilité pontificale se limite à ce que le pape veut définir. Alors, ne sont pas comprises dans ces définitions les raisons, les arguments employés pour aboutir à ces définitions. Sauf, bien sûr, si ces arguments sont déjà définis par ailleurs. Ça, c'est bien évident. Mais s'ils ne sont pas définis par ailleurs, les arguments employés pour aboutir à ces définitions ne sont pas définis, ne sont pas deux fois. N'est pas défini non plus dans un texte, même s'il y a une définition dogmatique qui aboutit à ce texte, ce qui est affirmé d'une manière... Enfin, incidemment, sans que le pape veuille imposer ce dont il parle. Voyez-vous, l'infaillibilité pontificale doit être manifeste, tellement la chose est importante. Et souvent, lorsque le pape déclare, selon son infaillibilité, quelque chose, eh bien, juste après, il manifeste formellement sa volonté de réprouver, de condamner une erreur comme directement ou indirectement opposée à la foi. Il expose la doctrine et ensuite il déclare anathème ceux qui disent le contraire de ce qu'il vient d'annoncer, ce qu'il vient de déclarer. Et c'est pour cela, eh bien, qu'à chaque fois, il va proposer cette doctrine comme une vérité de foi. Alors s'il y a un doute, eh bien s'il y a un doute, on peut dire qu'il n'y a pas d'obligation de foi, un doute fondé. Attention, ce n'est pas simplement quelqu'un qui, je dirais, parce que ça l'arrange, veut douter. Mais s'il y a un doute fondé, on ne sait pas si l'infaillibilité pontificale a été engagée, eh bien, à ce moment-là, eh bien, elle n'est pas... Enfin, disons, l'assentiment ne sera pas de foi. Voilà ce que dit à ce sujet le DTC, c'est-à-dire le Dictionnaire de théologie catholique. J'ai essayé de retrouver... le passage, non est in ponenda obligatio de quoi certo non constat, c'est-à-dire on ne doit pas imposer une obligation que on ne constate pas avec certitude. C'est le bon sens, hein, tout simplement. S'il y a un flou dans une déclaration, ça peut arriver. Eh bien, à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui se manifeste un peu trouble, eh bien, l'infaillibilité n'est pas garantie. Donc, l'adhésion ne sera pas de foi. C'est bien évident. Donc, le magistère extraordinaire, je le disais tout à l'heure, est assez facile à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il se manifeste d'une manière extraordinaire. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'il se manifeste. Mais il se manifeste toujours, en tout cas, avec des critères tellement évidents que cela saute aux yeux. Voyons maintenant, deuxièmement, le magistère ordinaire universel de l'Église. Car, je vous le rappelle, le Concile Vatican I, dans sa constitution Dei Filius, nous dit que nous devons adhérer deux fois à ce que l'Église propose de croire soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire universel de l'Église. Quel est ce magistère ordinaire universel de l'Église? Eh bien, c'est le magistère du pape, mais qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas solennel peut-être. C'est le magistère des évêques unis au pape. C'est le magistère, on peut dire, de l'Église dans son ensemble. Bien, tout simplement. Remarquons pourtant au départ une chose très importante, me semble-t-il, pour bien comprendre et bien appliquer en tout cas l'infaillibilité à ce magistère ordinaire universel. Le texte de Vatican I parle de l'infaillibilité du magistère ordinaire universel seulement pour l'Église dans son ensemble. On est bien d'accord. Je répète ce que dit le texte. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu par la parole, dans la parole de Dieu écrite ou transmise, et que l'Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire universel que les théologiens consentent dans le MOU. M-O-U. On ne parle pas ici de magistère personnel du pape. Pourtant, l'Église admet eh bien, que le pape peut, bien sûr, seul ou avec les évêques, eh bien, participer à ce magistère ordinaire, universel et être infaillible. Mais remarquons donc la chose et poursuivons un petit peu ce que je disais. L'Église sera infaillible dans son enseignement ordinaire, universel, et c'est cet enseignement qui est transmis par le pape, par les évêques unis au pape. Autrement dit, on pourrait dire l'infaillibilité ordinaire, je ne parle pas du jugement extraordinaire dont on parlait tout à l'heure, du pape sera là lorsqu'il transmet la foi de l'Église. Un point, c'est tout. Et c'est la foi de l'Église qui est infaillible. Je crois que c'est très important à comprendre, surtout aujourd'hui. Alors, quand donc l'enseignement du pape ou des évêques unis au pape appartient-il ou non pas, ou non au magistère ordinaire universel ? Eh oui, l'enseignement du pape des évêques sera infaillible s'il appartient au magistère ordinaire universel de l'Église. Il ne faut pas renverser les choses. Ce n'est pas parce que le pape ouvre la bouche qu'il est infaillible. C'est parce que ses paroles, ses déclarations, ses allocutions, tout ce qu'on peut imaginer appartient au magistère ordinaire universel, que l'infaillibilité est là. Parce que c'est l'Église qui est infaillible. Et elle se manifeste par, eh bien, le pape. Ou les évêques unis au pape. Alors, quand donc l'enseignement du pape, des évêques unis au pape, appartient-il ou non au magistère ordinaire universel ? Eh bien, lorsque des critères sûrs sont présents et manifestes. Et on pourrait bien sûr, appliquer les critères, même si le Concile du Vatican n'a pas tranché la question, mais appliquer les critères du magistère extraordinaire. On sait que si dans le magistère extraordinaire, qui est beaucoup plus solennel, beaucoup plus précis, des critères si certains doivent être présents, encore plus dans le magistère du pape, des évêques, magistère ordinaire du pape et des évêques, il doit y avoir des critères très certains pour que ce magistère appartienne au magistère ordinaire universel de l'Église. Voyez-vous ? Alors, quels sont les critères ? Eh bien, on peut les diviser en deux groupes, ces critères. Tout d'abord, les critères qui sont du côté de la chose qui est enseignée, de ce qui est enseigné. Eh bien, du côté de ce qui est enseigné, il faut tout simplement, et ça, c'est le bon sens, il faut que l'enseignement soit conforme à la tradition. S'il n'est pas conforme à la tradition de l'Église, il n'y a pas d'infaillibilité de l'Église. Tout simple. Saint Vincent de Lérins nous dit cela à propos de la tradition. Qu'est-ce que la tradition ? Eh bien, c'est ce qui est Saint-Père, enfin, quod Saint-Père tenet et tenuit sancta mater ecclesiae. Ce que l'Église, notre Sainte Mère l'Église, a toujours tenu, et, enfin, tient et a toujours tenu. Donc, ce qui a été cru partout, depuis toujours et en tout lieu. Voilà ce qu'est la tradition. Et cette conformité à la tradition, bien sûr, on peut dire qu'elle doit être horizontale et verticale. Horizontale, c'est-à-dire que, eh bien, aujourd'hui, l'ensemble des évêques doit croire cela, et verticale, c'est-à-dire depuis la fondation de l'Église, depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, on doit croire la même chose, partout et en tout lieu, depuis toujours. Et bien sûr, la doctrine doit traiter de la foi et des mœurs et doit être, bien sûr, tenue. C'est-à-dire, on doit, d'une certaine façon, elle doit être définie. Ça doit être des choses certaines, des choses claires, et non pas simplement un sermon qui serait mal boutiqué et qui voudrait dire tout et le contraire de tout. Du côté, maintenant, du mode d'enseignement, nous avons vu donc le critère du côté de ce qui est enseigné. Et puis, ça va être la conformité à la foi de l'Église, tout simplement. Et du côté, maintenant, du mode d'enseignement, le magistère doit être clair. Et oui, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Le magistère, enfin, le pape ou les évêques unis au pape, doivent parler en tant que docteur authentique, et non pas en tant que docteur privé. Et cette authenticité doit être manifeste. Attention, elle doit être manifeste. C'est pas simplement, il ne suffit pas d'ouvrir la bouche, même de dire un serment. Non, en tant que, en tant que pape, successeur des apôtres, je vous dis que... Voilà. Il doit y avoir donc cette volonté d'exposer la doctrine, de trancher une controverse ou de donner seulement une opinion. Ah oui, c'est pas pareil si on donne une opinion ou on tranche une controverse, on expose la doctrine claire et constante de l'Église. Également, il est certain que la nature que l'autorité de l'Église emploiera pour faire passer sa prédication sera importante à considérer pour voir véritablement si l'infaillibilité est engagée. Il est certain que lorsque le pape emploie une bulle ou emploie l'encyclique ou une constitution apostolique, il veut mettre plus de solennité que s'il emploie simplement le message radiodiffusé, comme Pie XII l'a beaucoup employé pendant son pontificat. Il faudra voir également aussi si le document pontifical est inséré ou non dans les AAS, c'est-à-dire les actes du siège apostolique, donc cette liste, cette publication officielle du Saint-Siège. Et puis également, ce qui est dit ne doit pas être un simple obiter dictum, c'est-à-dire une allusion ou quelque chose qui est dit à côté, mais doit être le thème principal qui doit être bien remarqué dans le document. Et donc, vous avez des critères, et on pourrait en trouver d'autres, bien sûr. Ce n'est certainement pas exhaustif dans ce que je vous dis ce soir. Nous avons plein de... Nous devons avoir ces critères pour voir, évidemment, d'une manière avec évidence, si, oui ou non, eh bien, la doctrine qui est donnée par le pape ou les évêques unis au pape appartient au magistère ordinaire universel. Et donc, eh bien, s'il y a cette adhésion de foi ou non à avoir. Alors, suite à ce que je vous ai dit, voyons un petit peu maintenant concrètement la question. Eh bien, il faut dire que par eux-mêmes, attention, par eux-mêmes, je le dis bien, Par eux-mêmes, les documents du pape ne sont pas forcément infaillibles. Ils peuvent l'être, certains passages peuvent l'être, mais par eux-mêmes, ils ne sont pas infaillibles, sauf s'ils appartiennent au magistère ordinaire universel ou au magistère extraordinaire du pape. Voyez-vous ? Pourquoi ? Eh bien parce que le pape n'a qu'une mission à remplir sur cette terre, c'est transmettre la foi des apôtres, la foi de Pierre. Je vous ai transmis, dit saint Paul, en tant qu'évêque bien sûr, moi, je vous ai transmis ce que moi-même j'avais reçu. Et le concile du Vatican, Vatican I, a été prudent. Je crois que c'est juste avant la définition que je vous ai lue tout à l'heure, il rappelle cela. Le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une doctrine nouvelle, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Autrement dit, le Saint-Esprit ne peut être présent si une doctrine nouvelle est présentée par une autorité quelconque. Enfin, par l'autorité pontificale, ou par l'autorité pontificale pour simplifier. Voyez-vous, le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation, donc sous la révélation du Saint-Esprit. Oui, ça serait trop facile. Trop facile. Voyez-vous, si un pape pouvait, je dirais, sous prétexte de révélation, imposer une doctrine nouvelle, ça serait grave. Et ça mettrait en péril, je veux dire, toute l'Église. Voyez-vous, et le pape ne peut le faire. Ou s'il le fait, eh bien, il faut dire qu'il le fait non pas en tant que docteur authentique, mais en tant que personne privée. Un point, c'est tout. Alors, quel est l'assentiment, eh bien, que nous devons donc au magistère pour un petit peu conclure ces propos? Si le magistère est infaillible, donc s'il appartient au magistère extraordinaire ou au magistère ordinaire universel de l'Église, il faut cette adhésion de foi, tout simplement. S'il ne l'est pas, c'est-à-dire s'il n'appartient pas au magistère extraordinaire ou au magistère ordinaire universel, il faut, attention, quand même un assentiment religieux. Pourquoi ? Eh bien parce que, même si le pape ne veut pas trancher une question, eh bien il doit quand même y avoir une adhésion de notre intelligence, mais qui ne sera pas une adhésion de foi. Autrement dit, si dans une question qui est disputée, eh bien on se permet d'émettre une position autre, on peut être téméraire, mais on ne perdra pas la foi. Par exemple, Pie XII, lorsqu'il a défini le dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge, n'a pas tranché la question « est-ce que la Sainte Vierge est morte ou est-ce qu'elle n'est pas morte ?» Question encore libre, disputée. Pourtant, la majorité des théologiens nous disent qu'elle est morte. La majorité. Et ça serait presque maintenant téméraire de dire le contraire. Bon, même si la question peut être disputée. Donc il faut cette adhésion, qu'une adhésion de notre intelligence à ce qu'enseigne l'Église quand même. Et le décret Lamentabili, justement, condamne une proposition qui dirait, eh bien non, lorsque, par exemple, l'Église proscrit des erreurs, les fidèles peuvent très très bien, eh bien, en prendre et en laisser. Non, dit le pape, hein, dans ce décret Lamentabili, eh bien non, il faut quand même une adhésion, une obéissance. Et dans l'encyclique Humanis Generis de Pie XII, dont on verra un extrait tout à l'heure, le pape Pie XII le rappelle également. Quelles sont les raisons? Eh bien, ce sont les raisons de la plénitude des pouvoirs de l'Église, qui est à ses pouvoirs pour défendre la vérité avec une autorité. Même s'il ne le tranche pas définitivement, il faut quand même une certaine adhésion. Et puis, comme le dit le DTC, c'est-à-dire le Dictionnaire de théologie catholique, la prudente maturité avec laquelle l'Église procède à l'examen doctrinal, les preuves traditionnelles ordinairement citées et la sagesse éprouvée des papes en toutes circonstances font que, eh bien, généralement, on ne peut pas citer beaucoup d'erreurs. Donc il faut cette adhésion de l'intelligence à l'enseignement proposé, bien qu'il ne soit pas infaillible. Maintenant, il est vrai, il peut y avoir des doutes. Mais, nous dit le DTC, je répondrai quand même, parce que, évidemment, le DTC parlait pour des périodes faciles, qui ne sont pas forcément les périodes actuelles, contre la certitude morale avec laquelle l'enseignement pontifical se présente à l'intelligence, il ne peut y avoir normalement que des doutes ou soupçons non fondés ou imprudents que l'on doit écarter soit à l'aide de motifs d'ordre intellectuel sur lesquels s'appuie la certitude morale de l'enseignement, soit par l'influence de la volonté qui doit, par déférence pour l'autorité, incliner l'intelligence vers une adhésion jugée pratiquement très prudente. Autrement dit, s'il y a un doute, il faut résoudre le doute. Peut-on résoudre le doute? Eh bien, en écartant les soupçons qui ne sont pas fondés ou qui sont imprudents. Soit en étudiant, soit en demandant des explications, ou alors, en poussant notre volonté, par déférence pour l'autorité, qui a quand même théoriquement une a priori favorable, à incliner cette adhésion de l'intelligence en toute prudence. Maintenant, il peut se faire que les doutes persistent. Et effectivement, des doutes peuvent persister. Et je crois qu'actuellement, nous pouvons poser quelques doutes. Vous savez que, je ne me souviens plus en quelle année, Mgr Lefebvre, j'étais en discussion, je crois, avec le cardinal Ratzinger, s'entend demander par le cardinal Ratzinger, mais Monseigneur, écrivez-nous les doutes que vous avez contre la foi à propos du Concile. Alors, Mgr Lefebvre s'est mis au travail et a soumis les dubias sur la liberté religieuse, les dubias, justement, où il posait les doutes, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Et donc, il pose des questions. Est-ce qu'on peut dire que c'est conforme à la tradition, etc., etc. Bon. Malheureusement, la réponse n'a pas été à l'espérance des attentes de Mgr Lefebvre parce qu'ils n'ont pas répondu véritablement aux questions posées. Donc les doutes, ils peuvent être là. S'ils sont fondés, à ce moment-là, ils peuvent être bons. Mais alors attention, est-ce que n'importe qui peut avoir un doute? Bon, bien sûr, là, il y a cet sens de la foi qui peut jouer. Actuellement, c'est le sensus fidei qui peut jouer et qui fait dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'autant plus que jamais, au grand jamais, on nous propose depuis 30 ans une doctrine comme étant stable, définie, authentique. Jamais. Peut-être, la question est disputée, car le cardinal Ratzinger a une interprétation justement qui va dans le sens contraire. Peut-être, la question de la non-ordination des femmes, dont le pape Jean-Paul II avait parlé il y a quelque temps, En tout cas, il est certain que c'est impossible, puisque la constitution divine de l'Église l'interdit, c'est bien évident. Bien. Donc on voit, véritablement, qu'il doit y avoir quand même cet assentiment, sauf si, bien sûr, il y a des doutes fondés, positifs, très clairs, qui nous empêchent, d'adhérer, et même de donner un assentiment quelconque à une doctrine nouvelle. Voyez-vous. À propos, justement, de cet assentiment que l'on doit avoir, voilà ce que disait le pape Pie XII dans l'encyclique Humani Generis que l'on détaillera au cours de cette année. Encyclique intéressante qui condamne les erreurs présentes du temps de Pie XII. De fait, malheureusement, les amateurs de nouveautés passent facilement du mépris de la théologie scolastique au manque d'égard et même au mépris à l'égard du magistère de l'Église, qui a si fortement appuyé de son autorité cette théologie. Le magistère est présenté par eux comme un empêchement au progrès et un obstacle pour la science. Oui, ça on l'a entendu plusieurs fois. Les non-catholiques le considèrent comme un frein injuste qui empêche certains théologiens plus cultivés de renouveler leur science. Et c'est vrai que Pie XII a dû passer son pontificat à fermer des portes dans les domaines de la théologie, parce que ça partait dans tous les sens les plus incontrôlés. Et bien que ce magistère, continue le pape, doivent être pour tout théologien en matière de foi et de mœurs la règle prochaine universelle de vérité, car le Christ, notre Seigneur, lui a confié tout le dépôt de la foi, écriture sainte et tradition, à garder, à défendre et à interpréter. Toutefois, le devoir qu'ont les fidèles d'éviter aussi les erreurs qui voisinent plus ou moins avec l'hérésie, et par conséquent, d'observer même les constitutions et décrets par lesquels le Saint-Siège proscrit et prohibe de telles opinions mauvaises, et parfois aussi ignorer d'eux comme s'ils n'existaient pas. Et l'édition donc qui vient de cette édition que vous avez au fond de la salle de décision des actes de Pie XII, commente ce passage. D'abord, il cite que cette doctrine est tirée de la constitution des Fidei Catholica du Concile Vatican Ier, et commente ensuite cela. Évidemment, lorsque le magistère ne présente pas une doctrine comme vérité de foi, l'adhésion exigée des fidèles ne présentera pas un caractère irréformable. Il s'agira de s'incliner respectueusement, silentium obsequiosum, un silence obséquieux, donc, et parfois même de donner un réel assentiment intellectuel. Bon, donc vous voyez, il y a différents degrés d'adhésion, même lorsque il n'y a pas de doute à avoir. Alors il est vrai que, pour parler très rapidement en quelques mots du magistère actuel, on peut dire qu'il y a un magistère nouveau qui s'est introduit dans l'Église. Magistère nouveau dans la manière, justement, de traiter les problèmes. Et pour le dire, je citerai tout simplement un auteur qui est un confident, un ami du pape Jean-Paul II, qui a écrit une biographie de lui, je crois, un célèbre journaliste italien qui s'appelle Vittorio Messori. Peut-être que certains d'entre vous ont vu cet article qui a été publié dans le Figaro magazine. Ce n'est pas ma lecture habituelle, mais je suis tombé là-dessus et je crois que ça tombe bien. Et voilà ce que dit ce journaliste qui n'est pas d'accord avec ce que fait Jean-Paul II. En ce mois d'octobre 1998, que célèbre-t-on? Les 20 années de présence de Carole Wojtyla sur le siège de Pierre, ou l'anniversaire d'un pontificat, autrement dit, d'une période dans la vie de l'Église. Il y a 20 ans, un Polonais de 58 ans commençait un des plus longs règnes de l'histoire de la chrétienté. Cette distinction entre l'homme et le pontificat est essentielle, dit-il. Le pape peut être sympathique ou non, saint ou pécheur, blanc ou noir, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est qu'il est le garant de la foi, le vicaire du Christ. Cela dit, Jean-Paul II est très sympathique. Je ne voudrais pas me faire passer pour un de ses intimes, mais il se trouve qu'il y a quelques années, le pape a pensé à moi quand Rai 1, la télévision d'État italienne, lui proposa de se soumettre à un entretien. Il me connaissait pour avoir lu mon premier livre, Hypothèse sur Jésus. Alors qu'archevêque de Cracovie, il était à Rome pour prêcher une retraite au pape Paul VI. On m'a raconté qu'il avait fait traduire ce livre en polonais et, pour échapper à la censure du pouvoir, l'avait publié en feuilleton dans le journal de son diocèse. Bon, je passe. Un beau jour, il me fit téléphoner pour m'inviter à déjeuner dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo. Le repas eut lieu dans sa salle à manger privée. Il dura 3 heures, pendant lesquelles Jean-Paul II me demanda de lui préparer des questions en vue de cette interview. Pour un journaliste, le rêve. Pour un catholique, le trac. Je revois la scène. Nous étions 4 ou 5 servis par des religieuses polonaises. Le pape mangeait avec appétit. Bon, je passe. D'emblée, son entourage était un peu interloqué par le ton de notre conversation. D'emblée, je lui ai dit que cette idée d'une interview télévisée ne me paraissait pas excellente. Votre sainteté, lui ai-je dit, si vous aussi commencez à donner des interviews, vous entrez dans le monde médiatique, c'est-à-dire du « selon moi ». Or, c'est d'un maître, non d'un leader d'opinion, dont les catholiques ont besoin. Il ne sembla pas d'accord avec cette vision des choses. Oui. Nous nous sommes aussi opposés sur un autre point. Et là, c'est intéressant. Vous voyez, ça va dans le sens que je vous ai donné tout à l'heure. L'Église, ai-je ajouté, a publié en 20 ans plus de textes qu'en 20 siècles. C'est vrai. Déjà, je crois que le pontificat de Pie XII a explosé. Si vous jetez un coup d'œil juste derrière, vous verrez en jaune, je dirais, le métrage des œuvres de Pie XII. Les œuvres de Saint Pie X sont contenues dans deux volumes. L'Église, ai-je ajouté, a publié en 20 ans plus de textes qu'en 20 siècles. Où est le temps où elle répondait aux questions et aux problèmes de l'époque par ces mots, licet ou non licet? C'est-à-dire, est-ce que c'est permis ou est-ce que ce n'est pas permis? Il m'a répondu, donc c'est le pape qui répond, je sais que dans le quotidien à devenir, vous avez même proposé que l'Église fasse une cure de silence de 3 ans, du pape au simple curé. Bon, et l'auteur, donc, le journaliste continue, « Cette boulimie est un phénomène récent dans l'histoire du catholicisme. Pour clôturer un congrès de médecins, Pie XII mit 6 mois à rédiger son discours après s'être longuement informé sur le sujet. Il publiait une encyclique tous les 10 ans. » Bon, ça, je ne sais pas si c'est très vrai. Enfin, bon, en tout cas, il n'en a pas 150 000. « Aujourd'hui, ce rythme s'est accéléré, c'est vrai. Il y a presque une encyclique qui sort chaque année. Par exemple, chaque dimanche, à l'occasion de l'Angélus de midi, le pape se livre à un petit commentaire de l'actualité. Tout récemment, il s'est exprimé sur la rentrée scolaire en Italie. Pourquoi pas? Mais son propos est parfois trop italo-centrique. Il porte la marque du journal télévisé de la veille que le pape ne manque pas de regarder. Le risque de trop parler est donc de banaliser la parole de l'Église, que son intervention porte sur un problème secondaire ou sur un point de foi primordial. La communication est l'une des marques de ce pontificat et n'est pas sans inconvénient. Et je crois que l'analyse qu'il fait, bon, il y aura peut-être d'autres choses à dire, mais montre très bien, en tout cas pour illustrer le propos que je vous ai donné tout à l'heure, quand on parle trop, eh bien quelquefois, eh bien, on manque certainement de précision pour ne pas dire plus. Voyez-vous. Et la communication, qui est le phénomène de notre époque, c'est vrai. Et Pie XII l'a utilisé, c'est vrai. Mais il y avait une rigueur qu'il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un peu trop dans le pontificat actuel, eh bien, justement, à mon avis, comme tel ou tel journaliste pourrait donner son opinion. Le journaliste disait, or c'est d'un maître, non d'un leader d'opinion, dont les catholiques ont besoin, d'un maître qui enseigne, licet ou non licet. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre aux questions, si je peux le faire. Je crois que simplement c'est la traduction des conférences épiscopales françaises. Pourquoi? Parce que la messe, telle que même la nouvelle messe, est officiellement en latin. Ensuite, vous avez eh bien, les traductions de chaque conférence épiscopale. Donc, pour l'occurrence du Notre Père en français, avec le tutoiement et le ne nous soumet pas à la tentation, vient de la conférence épiscopale française.
Et pour moi, Dieu ne nous soumet pas.
Ah ben bien sûr, c'est une erreur, pour ne pas dire plus, est-ce que c'est une hérésie, je ne sais pas, mais enfin c'est faux, ça c'est clair. Dieu ne peut pas positivement nous pousser au mal. Il laisse faire. Oui, voilà. Dieu laisse faire, un point c'est tout. Il permet, mais il ne veut pas le mal. Et c'est toute la différence. Alors, il est vrai que le Concile Vatican II a voulu, et ça c'est le pape Jean XXIII qui l'a déclaré dès l'ouverture, être un concile pastoral. Bon, et donc, il ne s'est proposé de ne rien définir. Et il est vrai que l'interprétation donnée ensuite même par Paul VI est de dire que les notes d'infaillibilité, les marques de l'infaillibilité ne sont pas présentes dans le Concile. Paul VI l'a déclaré, je crois, en 67. C'est dans la documentation catholique, en 67. Pourquoi ? Parce que, justement, eh bien, ils n'ont pas voulu définir. Et j'allais dire même, pour renforcer, pour compléter ce que disait ce journaliste, la pensée moderne se refuse à définir. Pourquoi ? Parce qu'elle est évolutive. C'est le changement permanent. Ce qui était bon autrefois, était bon pour autrefois, maintenant c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que la conscience collective de l'Église a changé. Puisque la foi est l'expression de la conscience collective de l'Église selon la doctrine moderniste, qui a été condamnée d'ailleurs dans l'encyclique Pachandi par Saint Pie X. Et c'est pour ça que le cardinal Ratzinger dit « Mais non, il n'y a pas de contradiction entre le syllabus et Vatican II, même s'il voit que l'un dit le contraire de l'autre, il l'a admis. Mais en fait, pour lui, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi ? Parce que c'était la foi autrefois à un moment donné de l'Église. Maintenant, c'est la foi à ce moment donné de l'Église. Il y a quelque chose qui ne va pas au point de vue intellectuel. Ça ne tient pas debout. Mais pourquoi ? Parce que généralement, ces hommes, eh bien, ont une philosophie complètement perturbée, j'allais dire, complètement trafiquée, complètement fausse, avec une philosophie de immanentiste, personnaliste, évolutionniste, etc. Alors, les doutes, s'ils sont fondés, peuvent être résolus ou ne pas être résolus. Si on peut les résoudre, il faut les résoudre. À ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de doute, donc on a sent. Mais si on a un doute qui persiste, eh bien, généralement, on doit quand même avoir un a priori favorable pour l'autorité qui parle. Ça, c'est tout à fait logique. Sauf si, d'une manière évidente, il y a une contradiction. Enfin bon, à ce moment-là, si l'autorité est compétente, elle peut s'apercevoir de son erreur et rectifier. Mais quand on a un professeur enseigne, eh bien, on demande aux élèves un a priori favorable, sinon ce n'est pas la peine qu'ils viennent. C'est l'application, si vous voulez, de ce que les professeurs demandent à leurs élèves. Eh bien, c'est l'application que l'on a vis-à-vis de l'autorité de l'Église, bien sûr. Vous savez, Pie XII, avec tout, je dirais, l'autorité qu'il avait, avec tout le prestige qu'il avait, était entouré quand même de personnes qui ne voulaient pas forcément entièrement le bien de l'Église. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Il ne voyait pas tout, il ne pouvait pas tout faire, etc. Il a laissé faire certaines choses qu'il a reprises par la suite. Par exemple, la traduction des psaumes du bréviaire a été retraduite par le cardinal Béat. C'était une catastrophe. Ça a été abandonné 2 ans après. Le cardinal Béat était le confesseur de Pie XII. Bon, ça fait partie de, comment dirais-je, de l'Église qui est faite d'hommes qui ne sont pas toujours saints, c'est vrai, mais qui est sainte par elle-même. Voyez. Et donc, on cite cette phrase de Pie XII. Bon, je n'ai pas les références, c'est plutôt de mémoire, etc. Est-ce que c'est vrai en plus ? Il faudrait voir. Mais mon pouvoir s'arrête à la porte de mon bureau, disait-il. Enfin, je mets des guillemets, des prudences dans ce que je dis, parce que je n'ai pas de référence historique certaine, hein, mais c'est ce qu'on raconte. Toujours est-il que Pie XII avait une vision claire de cette crise, hein, parce qu'il prophétisa, on peut dire qu'il prophétisa, qu'il voyait des novateurs qui allaient éteindre la lumière, la lampe sacrée du sanctuaire. Allez-vous. Et un jour viendra où l'Église doutera comme Pierre a douté, dit-il. Là, je crois qu'on est en plein dedans. Et c'est cette vision, justement, de l'Église qui, eh bien, subit sa passion, comme notre Seigneur a subi sa passion. Donc, il est vrai que, eh bien, lors de la passion de notre Seigneur, la divinité du Christ ne se voyait pas. Ne voyait pas. Mais bon, l'Église, eh bien, elle n'est pas au-dessus du maître, elle suit le maître. Donc, elle est dans ses membres, eh bien, elle subit sa passion. Ou par ses membres, elle subit la passion. Mais, de toute façon, la pérennité de l'Église est là, l'indéfectibilité de l'Église est là, et nous en sommes tout à fait persuadés, hein, car cela, c'est de foi, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Voilà, d'autres questions ?
Je parle.
Alors, effectivement, oui, voilà.
Que les termes utilisés qui font reconnaître.
Alors, bon, vous avez deux sortes de, j'allais dire, de, de prédication, la prédication solennelle où une définition est portée. Alors effectivement, là, il y a la solennité, on peut dire introduction, développement et conclusion. Ça, d'accord. Mais là, c'est assez simple. La question est plus délicate pour le magistère ordinaire universel. Pour le magistère habituel, fait-il ou non partie du magistère ordinaire universel? Il n'y a pas forcément besoin d'une grande solennité. Un pape qui dans un sermon, eh bien, parlerait de l'Assomption actuellement de la Sainte Vierge. Oui, il est infaillible. Pourquoi? Parce que la doctrine est infaillible, tout simplement.
Parce qu'elle est établie.
Elle est établie.
Mais je disais simplement.
C'est la non-ordination des femmes.
La non-ordination des femmes. C'est ce que je voulais dire, en plus. Mm.
Alors,
les gens ont cru reconnaître que c'était
voilà.
Qu'il engageait son affaire.
Alors, quand on lit les décrets, quand on lit le texte, effectivement, on pense qu'il y a quand même les critères. Mais juste après, le cardinal Ratzinger, qui est quand même, je dirais, un interprète assez officiel actuellement, puisqu'il est gardien théoriquement de la foi, eh bien, déclare oh ben non, c'est pas une déclaration infaillible. Alors il y a contradiction là dans les termes. Mais bon, de toute façon, la doctrine par elle-même est infaillible, indépendamment de ce que le pape a voulu engager son infaillibilité. Je n'en sais rien. On peut discuter, disons. Peut-être que oui, peut-être que non.
Il a parlé d'une chose infaillible.
Mais en tout cas, la chose en elle-même est infaillible. Et de toute façon, certains arguments qu'il donnait étaient tout à fait vrais, d'autres étaient très subjectifs. Enfin, la dignité de la femme, c'est très bien, mais le droit de l'homme, oui. Mais tout, donc, vous voyez, tout dedans n'est pas infaillible, en tout cas, ça c'est clair. Mais il a rappelé, ça ne peut pas changer, pourquoi? Parce que ça serait contre la constitution divine de l'Église. Je crois que c'est à peu près les termes qu'il a employés.
Ce qui fait que le compteur reste à zéro depuis Vatican II. Il n'y a eu aucun
texte. Le magistère extraordinaire, c'est clair. Oui, magie ordinaire, ça, là, c'est difficile. C'est difficile à dire. A priori, je dirais que non. Mais pour la raison fondamentale, c'est que cela va contre l'intention même, je dirais, personnelle du pape. Je dirais, le credo de Paul VI, on peut dire qu'il est infaillible. En tout cas, que ça appartient au magistère ordinaire universel de l'Église. Parce que la doctrine est claire, nette, précise.
Moi, je pensais que...
Mais vous savez, même au niveau des anciennes encycliques, les questions sont quelquefois disputées. Est-ce que ça appartient ou appartient pas? C'est pas si évident que ça. Le DTC détaille, moi j'en ai pas parlé, mais parce que faudrait connaître les encycliques en question pour comprendre. Mais les questions ne sont pas si tranchées que ça. Et quelquefois même dans une encyclique, simplement un passage est infaillible. Alors, pour répondre aussi à la question que vous avez posée tout à l'heure, nous allons étudier donc cette année la constitution apostolique de Pie XII sur l'Assomption de la Sainte Vierge, qui est magnifique. Parce que justement, il montre comment il a engagé son infaillibilité. Alors, je ne vais pas vous en parler ce soir, ça sera, je crois, au mois de mai. Il faudra patienter un petit peu, excusez-moi, mais enfin, ça permettra de revoir un peu ce qu'on a vu. C'est magnifique. Elle n'est pas très longue, mais c'est magnifique. Et lorsque le pape donc, a prononcé ce dogme, il a lu simplement la fin de sa constitution apostolique. Je ne l'ai pas ici, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais il a lu simplement la fin. Donc un petit paragraphe qui expose ce qu'il définit et qui ensuite condamne ceux qui ne croient pas à ce que le pape vient de définir. Là, c'est clair, net, je dirais. Oui.
Il est question qu'on fête la Shoah.
Je répondrai assez facilement pour l'instant que c'est hors sujet. Je répondrai tout à l'heure. À quel point de vue? Ah ben, alors attention, oui. Alors la question est de savoir, ce que nous disons tout simplement, c'est que de toute façon, ce n'est pas infaillible, c'est clair. Donc, on peut émettre des doutes, et plus que des doutes, puisque là, il y a une objection de foi qui est posée. Voilà, d'autres questions ?